Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 835 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. On parlera du succès mondial, ben oui, de Meursault à New York, de la Polée, du château d'Anglaise dans le Languedoc, et on parlera également d'une belle école avec Jérôme Gallo, son directeur, la Wine and Spirit Business Burgundy, sans oublier un zoom, mon cher David, sur les hauteurs suisses. À mes côtés, il y a
pas,
vous,
pas
David Cabot.
Pas toujours si haut que ça, ah, mais la Suisse, quand même.
Un peu de teasing, là, c'est bon. Et puis également, Hélène Pio et Laure Gasparotto. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Vous
bonjour,
êtes très belles, vous savez.
Merci beaucoup.
Ah, alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve justement vous, David Cobold, hein, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour le Vino Quiz, David.
Alors, le Vino Quiz, le principe, c'est simple. On vous pose une question, vous répondez, et si vous avez raison, vous avez une option, gagner un abonnement d'un an à la Revue de Vin de France. C'est pas beau, ça?
Très joli cadeau.
Alors, la semaine dernière, la question fut, que possède la famille de Lorgeril? Option A, une chaîne de brasserie dans le 8e arrondissement de Paris. Option B, de très beaux domaines viticoles situés dans le sud de la France. Ou option C, une série de campings autour de la ville de Perpignan. La bonne réponse étant la deuxième, bien sûr, de très beaux domaines viticoles un peu partout, dans certaines appellations du sud de la France, à partir de Carcassonne, en allant vers l'est.
Très bien, David. Cette semaine...
Alors, nouvelle question. Qui est le directeur de la School of Wine and Spirits Business in Burgundy?
C'est une bonne question pour vous. Là,
hein, c'est parfait. Option A, Jérôme Gallo, comme la famille, célèbre famille américaine qui fait pas mal de bouteilles de vin. Option B, Pierre Gallet, célèbre ampélographe. Option C, William de Galles, que je ne connais pas. Vous connaissez William de Galles?
Il me semble que peut-être du côté de votre famille anglophone, ça leur dit quelque chose.
Ok, William de Galles. Alors, pour répondre, il faut choisir la bonne option, A, B ou C, ou répondre, gagner un abonnement d'un an à la Revue de Vin de France. Allez tout de suite pendant la semaine, mais le plus rapidement sera le mieux, sur le site invinoradio.fm, dans la rubrique Vino Quiz. Et parmi les... ex-échos qui seront nombreux.
Tirage au sort, David.
Il y a un tirage au sort.
Merci, David. Une vidéo sur radio accueille maintenant un coup de cœur, le coup de cœur de l'émission. Vianney Fabre, vigneron au château d'Anglaise dans le Languedoc. Bonjour, Vianney.
Bonjour.
Alors, racontez-nous, vous êtes établi à La Clap, hein, vous êtes entre Narbonne et Béziers. Il paraît qu'à l'époque, c'est Jules César qui a planté les vignes.
Oui, absolument. C'est amusant parce que c'est un terroir très ancien. Les Romains y cultivaient déjà de la vigne. Et c'était une île à l'époque, entourée par la mer, donc vraiment aujourd'hui sur la côte méditerranéenne. Et c'est depuis 2015 une jeune appellation, la première appellation communale du Languedoc, donc qui veut dire une petite appellation qualitative, et qui est en blanc et en rouge.
En blanc et en rouge, quoi. Alors vous, c'était l'affaire familiale hein, depuis longtemps?
Oui, ma famille, on est depuis 5 générations du côté de ma mère et du côté de mon père, 6 générations vignerons, mais on est originaire du Bordelais à la base.
Oui, vous avez commencé à Bordeaux au sein d'un très joli et prestigieux château, quoi.
Oui, exactement. Mon père s'est occupé pendant longtemps du château Lafitte-Rothschild. Il était directeur technique et il avait un rêve dans le coin de sa tête qui était un jour de cultiver du Mourvèdre au bord de la mer Méditerranée.
Et ça y est,
donc,
le rêve
est... C'est en 2002 qu'il a racheté Château d'Anglaise, justement sur le côté mer de la Clap, face à la Méditerranée.
D'accord. Au total, vous avez quoi, 45 hectares, c'est ça?
Exactement, 45 hectares, 5 cépages en rouge, avec une préférence bien sûr pour le Mourvèdre, mais Syrah Grenache également. Et puis en blanc, la grande découverte pour nous, ça a été le cépage Bourboulinque, qui est assez atypique. On le retrouve un peu à Châteauneuf-du-Pape, mais l'appellation La Clap est basée sur ce cépage. On doit en mettre au moins 40% dans nos assemblages.
Et Vianney, vous produisez les trois couleurs?
Oui, et le rosé, bien sûr, décolle... Évidemment, beaucoup. Donc, on produit à peu près, oui, la moitié de rouge et puis un quart de blanc et de rosé.
Donc, la tendance, hein, on en parle souvent avec David Cobold, que la tendance du rosé, c'est au détriment des rouges, je suppose, non?
On essaye de freiner un peu, presque, sur le rosé, parce que c'est vrai qu'on a envie de conserver les rouges qui sont, pour nous, notre premier cheval de bataille. Mais le rosé, oui. Le rosé se développe très fort, notamment aux États-Unis. Nous, on exporte beaucoup, on exporte 70% de notre production, et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça marche très bien.
David Cobold,
Vianney, est-ce que vous sentez une pression vers les rosés de plus en plus pâles, ou est-ce que vous arrivez à résister à cette vague un peu stupide?
Non, c'est une pression omniprésente. sur le marché et de la part des professionnels du marché.
Mais ils veulent du pâle, quoi.
Ils veulent du pâle et ça en devient un vin finalement très très technique, pas au mauvais sens du terme, mais qui est assez compliqué à faire, puisque pour obtenir des couleurs pâles et de la matière, ça demande beaucoup de travail.
C'est pas facile, quoi. Vos belles bouteilles, vos beaux vins sont bouchés avec quel type de bouchage ?
On travaille beaucoup depuis maintenant pas mal d'années avec Gamme, qui nous permet justement d'éviter les goûts de bouchon et puis de réguler un peu l'oxygène comme on le souhaite dans nos vins.
Bon, Vianney, est-ce qu'on peut venir vous voir ? C'est-à-dire que vous êtes ouvert aux visites, aux milliards d'auditeurs de InVino Sud Radio, on peut venir vous voir avec un grand sourire ou pas ?
Absolument, et on peut même leur offrir une dégustation gratuite InVino.
Bon, c'est génial ça. Vous nous donnez un site internet pour prendre enseignement sur votre domaine, Vianney ?
Absolument, châteaudanglaise.com, c'est très simple.
Bon, vous pouvez continuer à écouter l'émission, mais là, ça y est, maintenant, on va passer à la dégustation. Et c'est Hélène Piau qui a dégusté votre Château d'Anglaise rouge.
Super.
2016. Alors, Hélène, il est comment ce vin ?
Oh, ça va pas du tout. Mais si, ça va. Non, il est super. Je le dis pas parce qu'on a Vianney en ligne, mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce vin. C'était 2016. On est donc en AOP Languedoc La Clap. J'ai dégusté le rouge parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rosé, mais comme Vianney le disait très justement, l'ADN premier quand même là-bas, ce sont des rouges magnifiques. Donc celui-là est particulièrement jubilatoire parce que
jubilatoire,
oui,
vous dites.
Que...
Wow.
Vous avez dansé,
c'est
Hélène.
Chaud là.
Eh ben oui, j'ai dansé dans ma cuisine avec mon tire-bouchon, c'était formidable. non, mais c'est vrai qu'on commence à arriver bientôt là, la saison des cerises. On est en manque, ça fait un an qu'on en a pas vu. Et là, je l'avais la cerise, une espèce de cerise noire juteuse, un truc comme ça. Oh là là, pour un peu, on en aurait eu qui coule sur le menton, c'est magnifique. Mais non, je me suis fait propre. Bon, non, un côté cassis frais, enfin vraiment un très très beaux fruits, et puis surtout le tout appuyé par une belle fraîcheur, parce que c'est vrai que quelquefois ce qui fait peur aux consommateurs dans cette région là c'est trop de soleil et du coup un côté un peu lourd. Là on l'avait pas, on avait un peu de poivre, presque de la cardamome, une jolie longueur. On peut le déguster dès maintenant parce que c'est le 2016, donc on peut déjà
se
faire très très plaisir avec une côte de bœuf, un gratin dauphinois.
Combien ça coûte la bouteille ?
Alors c'est le grand vin, donc c'est 23 €. Mais
d'accord.
Les cuvées classiques au domaine sont autour de 12-13.
Bon, très bien, voilà la bonne adresse du week-end. Merci Vianney, merci Hélène Piau, InVino Sud Radio. On retrouve Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour nous parler de la polée. Alors déjà, c'est quoi une polée, Laure ?
Alors oui, la polée, ça vient de la pelletée, de la pelletée en patois qui voudrait dire la pelle. Et ça serait la dernière pelletée de raisin qui arrive en cuve, en fait. Et la polée, c'est la fête du dernier jour de vendange. Alors, au départ, la polée, c'était le dernier jour de vendange. Et c'est une fête qui se faisait entre le vigneron, les vendangeurs. C'était très...
Dans toutes les régions viticoles.
Alors, selon les régions, le nom diffère.
D'accord.
Alors, ne me demandez pas le nom de chaque région. Mais c'est pour ça que je voulais parler de la polée aujourd'hui. C'est que c'est ce terme de polée... bourguignonne qui a envahi le monde du vin à l'international. Et pourquoi j'ai eu envie d'en parler ? Parce que le 23 avril dernier, l'Association des sommeliers de Paris a remis cette fête au centre de la ville, parce qu'il y a des vignes également à Paris, à Montmartre. Et donc, l'Association des sommeliers de Paris a rassemblé tous leurs amis, tous les sommeliers, à la Bonne Franquette, à quelques mètres des vignes de Montmartre. Et en fait, cette fête, pour moi, sent un peu le retour des bacchanales dans le monde
du vin.
Oui,
c'est ça, quoi. Ouais.
Et
ouais.
C'est ça qui est fabuleux. C'est que tout à coup, chacun vient avec sa bouteille. Là, normalement, c'est à l'origine, en fait, la polée bourguignonne a été ritualisée à partir de 1934 à Meursault par le comte Lafont. Et au départ, donc, si dans chaque domaine, il y avait cette polée à la fin des vendanges, il y a une polée commune le troisième dimanche du mois de novembre, c'est-à-dire juste après la vente des vins des Hospices de Beaune. Et ça fait partie des trois glorieuses bourguignonnes. Et donc, cette polée est devenue de plus en plus courue. Aujourd'hui, elle a lieu au château de Meursault. Et au départ, chaque année, le nombre de convives augmente. Maintenant, on arrive à 700-800 personnes.
Mais quand même, c'est un événement énorme.
Qui paye très très cher et il faut s'inscrire très longtemps à l'avance. Parfois 2-3 ans, les listes d'attente sont
énormes. Donc c'est très couru.
C'est très couru et c'est tellement couru que le village de Meursault a dû faire une deuxième polée qu'ils ont appelée la Bannée. et qu'ils ont désaisonnalisé la polée au mois de mars.
Et qui vient là-bas, des Français, des étrangers, c'est alors, tous les polayeurs.
Les nationalités, des gens du monde entier viennent là, des gens de Hong Kong, des États-Unis, à tel point donc que la polée s'est délocalisée, donc maintenant à Paris, comme je le disais tout à l'heure, mais depuis 2000, maintenant il y a une polée à New York qui a été créée par un importateur de vin de Bourgogne qui s'appelle Daniel Jones, et cette polée maintenant a lieu aussi à San Francisco, et maintenant je suis même invitée à des polées à l'île Maurice dans l'hôtel
d'où votre temps allé.
Voilà, non, ça c'est, j'y suis allée il y a quelques années, mais je ne suis plus invitée. Et en fait, donc le groupe Constance a bien fait de récupérer ce rituel, c'est-à-dire que maintenant chaque année au mois de février, ils invitent des vignerons et des sommeliers locaux, parce qu'il y a une vraie professionnalisation du service du vin à l'île Maurice. Et il y a une association très puissante des sommeliers de l'île Maurice, et la polée y a contribué, parce que il y a un rituel du vin qui est arrivé sur l'île en même temps que les vignerons amenaient leur tradition. Voilà, et la prochaine polée dont tout le monde parle aura lieu le 30 juin en Anjou, la polée de l'Anjou.
Ah oui.
Voilà, qui en ce moment est en train de faire parler d'elle pour faire venir les prochains convives.
Ça, c'est quand même c'est un super outil de communication, David, non ?
Oui, et ça rejoint un peu c'est pas exactement la même chose, les confréries.
Oui, on est dans la même veine.
On est dans la même veine. En fait, c'est des outils de promotion, mais Laure a raison de souligner qu'au début, c'était la fête des vignerons.
C'est ça.
Pour les vignerons.
Il n'y a pas d'intronisation à la polée. Non. C'est beaucoup plus libre.
Il y a moins
libre.
De cérémonial.
Je parle de bacchanal parce que on est en dehors des règles, justement. Ouais. Et du coup,
on peut y aller déguisé.
La polée de Meursault, on y
déguisé
va.
Déguisé en anglais, David.
On y va comme on veut, justement. Ce n'est pas un dîner de gala. Peut. Alors que là, on y va vraiment comme on veut. Une polée à Meursault commence à midi. Elle finit à 20h et elle se poursuit dans les rues du village avec les caves ouvertes des vignerons.
Avec modération, évidemment, ça.
Mais voilà, tout le monde dort sur place.
Il y a une bonne ambiance, tout le monde dort ensemble, tout le monde dort sur
c'est
place.
Formidable.
C'est formidable. Merci beaucoup, Laure Gasparotto. Merci à tous. Dans un instant, on se retrouve à un retour au bar à vin de Nicolas à Paris, 31 place de la Madeleine, pour accueillir un nouvel invité. Il s'appelle Jérôme Gallou.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Jérôme Gallou. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors, je me prépare, vous êtes le directeur de la School of Wine and Spirit Business, Burgundy School of Business, ouf, à Dijon.
Oui.
C'est pas trop court ça, c'est pour ajouter un petit peu. Moi, on comprend tout quoi. Alors racontez-moi l'historique de cette école. C'est récent, c'est ça quoi ? Ça débute en 2013 ?
Oui, c'est ça. Ça débute en 2013. Alors en 2013, Burgundy School of Business s'appelait encore le SC Dijon. Donc on avait
le SC Dijon.
Voilà. Ouais. Et School of Wine and Spirits Business, c'est une school, c'est une école, c'est du wine business et c'est aussi du spirits business. Donc on a besoin de tout et tout a été validé par le collègue australien de l'époque. Mais c'est un petit peu long, il faut s'entraîner.
Bon, mais c'est pas grave. Les formations, expliquons un peu clairement les formations dispensées.
Trois types de formations. Une en français, master historique qui a 30 ans, master spécialisé commerce international des vins et spiritueux. Un MBA, Wine and Spirits Business, qui était un programme qui a été monté en 2009, qui était un MSc in Wine Business, qui est devenu un MBA cette année.
D'accord.
Et puis un MSc in Wine Management, qui est ouvert aussi à nos étudiants de deuxième année du Master Grande École.
Alors justement, les étudiants, il y en a combien chaque année en moyenne, Jérôme, et de quel pays viennent-ils ?
Alors en moyenne, ça augmente tous les ans, on s'en félicite pourvu que ça dure. C'est 120 étudiants et on a 14 ou 15 nationalités différentes. Cette année, on était très heureux d'avoir 5 Américains les 18 étudiants du MBA. Des Américains qui viennent en France, à Dijon, pour des programmes en anglais, c'est pas mal.
Alors les sites, donc Dijon, certes,
oui,
mais pas que.
Oui, Dijon-Paris pour le format part-time du CIVS. Et puis, nous avons aussi des locaux à Beaune, des superbes locaux dans l'ancienne chambre de commerce et d'industrie.
D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, le développement de l'école, vous allez faire comment ? Avec plus d'étudiants chaque année ? Vous voulez également développer d'autres sites ? Il y a déjà 4 sites, c'est pas mal ?
Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'on augmente, on a de plus en plus d'étudiants, mais on augmente la sélectivité tous les ans, c'est important. Sachant qu'en plus, dans les locaux dijonnais, on aura du mal à avoir plus de 150 étudiants. Donc, c'est important de pouvoir les sélectionner encore davantage. Augmentation des tuition fees. Voilà, parce qu'on n'est pas encore aujourd'hui à la hauteur de ce qu'on délivre. Autant dire que nos programmes, je les considère comme étant très bon marché. Notre MBA est à 25 000 euros.
25 000 euros, oui.
Je pense qu'il pourrait être à, par rapport aux trois voyages d'études internationales, aux 500 heures de cours.
À 10 000 euros de plus à 35 000 euros, c'était pas volé, quoi.
Oui, mais il y a une force de la marque qui est associée aussi aux institutions dans l'enseignement supérieur français. Donc, on y va petit à petit. Les développements se feront sur les marchés où il y a de la demande, c'est-à-dire aux États-Unis, qui est le marché aujourd'hui toujours le plus dynamique. C'est assez étonnant,
mais
d'ailleurs.
Eux-mêmes ont des formations autochtones, si je puis dire.
Dans la Sonoma Valley, il y a le One Business Institute, mais il n'y a pas grand-chose en fait aux États-Unis. Il y a quelques institutions très très renommées comme Cornell sur la gastronomie, l'hospitality management et Davis, mais il n'y a pas grand-chose.
Il y a peut-être un petit snobisme aussi à venir étudier le vin en France, non ? Ce qui est positif et favorable pour nous, non ?
Oh, j'appellerais pas ça du snobisme, je dirais.
C'est l'image de marque de la France, peut-être, hein.
Oui, l'image un petit peu luxe de la France, qui est renforcée d'ailleurs par l'aspect bourguignon, sans faire offense à nos collègues des autres régions. La Bourgogne.
Les passions rivales, vous l'avez vu ce bouquin, les passions rivales, hein, Bordeaux-Bourgogne avec Jean Verpitte, qu'on salue d'ailleurs. Alors, ça, c'est une question qui va intéresser tous les auditeurs d'une vidéo Sud Radio célibataire. Il y a aussi des filles chez vous?
Ah oui, bien sûr. Alors, ça fait d'ailleurs 3 ou 4 ans maintenant que nous avons plus de jeunes femmes que de jeunes hommes dans nos programmes.
Ah oui, oui. Oui. Et le no-tourisme, c'est aussi un vecteur important. J'ai vu que dans vos brochures, que vous fréquentiez un garçon éminemment recommandé avec Célan, Monsieur Leflève.
Olivier Leflève, oui. Et puis d'ailleurs, un de nos diplômés était chez eux il y a encore pas longtemps. J'ai rencontré leur super maître de chez Bertrand. Ils font des vins excellents et puis c'est une très très belle maison.
Et alors, le réseau des anciens, parce qu'une école grandit également grâce à son réseau, les alumni, combien de personnes ont été diplômées déjà? Et est-ce qu'il y a un côté sensibilité, tribu, si je puis dire, pour recommander votre école à Dijon?
Sur la School of Wine and Spirits Business, depuis qu'elle a été créée, c'est plusieurs centaines de diplômés, mais moi, je préfère prendre en compte tous les diplômés depuis la création du premier programme, qui sont aussi parfois des diplômés du Master Grande École de Dijon. Ça fait à peu près 2000 personnes. Parmi eux, par exemple, l'ancien patron de Vinexpo, qui est le nouveau directeur général de la maison Albert Bichot, qui est Guillaume d'Église, voilà, oui. Est un diplômé de l'ESC Dijon.
D'accord, et la tendance, donc c'est pareil, la notion de réseau fonctionne. Le monde du vin bourguignon vous aide, vous encourage, ou finance peut-être aussi?
Finance, pas à ce que je sache, peut-être que mon patron aura plus d'informations là-dessus, mais en tout cas soutien, c'est très important et je les remercie d'ailleurs à l'antenne aujourd'hui. On a ce qu'on appelle en fait des grands témoins, donc on a des superbes photos dans la School of Wine and Spirits Business avec tous les grands négociants de Bourgogne et puis également l'ancien régisseur du Clos des Lambrais, l'ancien régisseur du Clos de Tarte. Donc il y a du beau monde et il faut maintenant que je féminise ce mur.
Ah, c'est important.
Puisqu'on
ça.
A exactement, on a une association très dynamique de femmes productrices de vin en Bourgogne qui font des vins fantastique. Donc ça sera pour le mois de novembre.
Bon, et Jérôme, vous pouvez sortir aussi d'un peu de la Bourgogne, c'est-à-dire si demain il y a un producteur, un négociant de la Vallée du Rhône peut-être par exemple, ou de la Loire qui s'intéresse à votre école, vous lui dites welcome ou pas?
Il s'intéresse déjà puisqu'on a des diplômés partout en France et dans le monde. On en a beaucoup à Bordeaux, on en a beaucoup dans la Vallée de la Loire. Je suis moi-même originaire de l'Ouest donc j'ai un,
vous êtes d'où?
Un feeling moi je suis breton, on produit pas de vin encore hein, mais n'appelez pas le Chouchane du vin.
Il y a du vin en Normandie, à Saint-Pierre-sur-Dive.
Mais bon, les Anglais font du sparkling wine, peut-être qu'en Bretagne d'ici 10 ans effectivement ils font du vin. Bon, le muscadet c'est en Bretagne historique quand même, hein. Mais non partout en France effectivement, et puis plus qu'en France d'ailleurs, le nom de l'école est en anglais, c'est pas un hasard et c'est pas du snobisme, c'est parce que notre marché est un marché mondial.
Merci Jérôme Gallo, une vidéo Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour un zoom sur la Suisse. Oui. On y va doucement aujourd'hui.
On y va piano. Alors, ma question, ce matin, je vais parler pendant 3 émissions de la Suisse et ses vins. Mais il y a une chose qui m'interpellait. Pourquoi est-ce qu'on méconnaît tant les vins suisses ici en France? La Suisse est notre voisin très proche. La plupart de ses habitants, en tout cas une majorité, parlent la même langue, le français. C'est un pays aussi ancien dans le vin que la France, ou quasiment, puisque son vignoble date de l'ère romaine, au moins de l'ère romaine, disent-ils, et les témoignages sont là, archéologiques. Mais pourtant, combien de Français m'ont dit « Ah bon, on fait du vin en Suisse, je croyais qu'on allait au ski ».
Bah, c'est pas spontané, on pense au chocolat, on pensait à d'autres choses avant qui sont finies.
On pense à l'horlogerie, mais la Suisse produit du vin. Alors évidemment, elle produit peu de vin, puisque plus de 60% du territoire est occupé par les montagnes, il y a aussi une grande partie qui est occupée par des lacs, donc il reste assez peu de terres adaptées à la plantation de la vigne. Le vignoble suisse fait quand même 15 000 hectares, c'est un peu plus que l'Alsace.
Oui, c'est grand.
Donc, c'est pas énorme, mais c'est conséquent. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les Suisses boivent beaucoup plus qu'ils ne produisent. Les Suisses sont par tête d'habitants le quatrième pays consommateur au monde de vin.
D'accord, très bien.
Du coup, ils importent 65% de leurs besoins en vin. C'est un marché important pour certains producteurs de vin français, notamment de la Bourgogne, par exemple. Donc la Suisse n'a quasiment pas de vin disponible pour l'export. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, ça oscille entre 1 et 2% de la production suisse qui trouve la voie de l'export. Comme il y a beaucoup de pays qui sont peut-être intéressés, où il y a des restaurants suisses à New York ou à Londres ou ailleurs, et ben c'est ces pays-là qui reçoivent quelques vins suisses. Et vous aurez beaucoup de mal à trouver un vin suisse en France. C'est un énorme paradoxe.
Est-ce qu'ils sont bons, mon avis, tous ces vins suisses ?
Alors, bien sûr qu'il y a de très bons vins. C'est comme partout. Il y a d'excellents vins et des vins plus ordinaires un peu partout. Et la Suisse ne fait pas exception. Je parlerai demain des cépages suisses. Et je parlerai des styles de vin et des zones de qualité dans une semaine. La culture de la vigne étant très ancienne, on a reparti les vins d'abord le long des lacs, le long des voies fluviales, parce qu'il ne faut pas oublier que le Rhône et le Rhin ont leur source en Suisse. Donc il y a la région de Valais, par exemple, c'est la haute vallée du Rhône. C'est au-delà du lac Léman. Les lacs jouent aussi un très grand rôle. Autour du lac Léman, on a par exemple un vignoble qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, qui est le vignoble de Lavaux, entre Lausanne et Montreux, et plein d'autres, Neuchâtel aussi, la région des Trois Lacs a beaucoup de vignobles. Les plus grandes zones de production en ordre, donc la Suisse est divisée en cantons, il y a de très nombreux cantons, il y a une bonne quinzaine qui produisent du vin. Les plus importants sont le Valais, c'est-à-dire l'amont du Léman, en gros, zone à la fois de plaine et aussi de basse montagne, parce que les Suisses ont construit pas moins de 3000 km de murs de pierre sèche pour retenir le bas des coteaux et faire des vignes de terrasse.
C'est un peu comme à Bagnols-sur-Mer, David.
C'est plus spectaculaire que Bagnols. Au niveau de la pente, c'est parfois vertigineux. Également au bord du lac Léman, le canton de Vaud et la côte, ces régions-là ont beaucoup de vins. Donc on a Valais, Vaud et Genève, et ces trois-là constituent déjà 80% de la production de la Suisse. Après, il y a un peu de vin dans la partie suisse-alémanique, autour de Zurich et d'autres cantons. D'ailleurs, Zurich est la seule ville, une des rares villes avec Vienne, à avoir encore un vignoble dans son sein. Parce que la ville de Lausanne n'a plus de vignes, Genève n'a plus de vignes. Il y a une appellation Genève, mais c'est à l'ouest de Genève. Et puis, il y a la partie italienne. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois cultures, trois langues. Il y a même quatre, parce qu'il y a le romance. Mais l'allemand, l'italien et le français. La partie italienne s'appelle le Ticino, le Tessin, c'est la partie sud qui est la seule partie qui n'est pas du tout alpin en Suisse. Ça descend vers le lac Maggiore, et là vous avez beaucoup d'un cépage rouge très connu à Bordeaux, le Merlot. Et donc curieusement un quart est vinifié en blanc puisqu'il manquait de blanc. Aujourd'hui, le rouge domine la Suisse. Autrefois, ce fut le blanc, mais aujourd'hui, 60% des vins suisses sont en rouge.
Donc, ça veut dire, David, qu'on peut prendre une couleur de raisin et on peut le vinifier des trois couleurs. C'est-à-dire, ce raisin peut devenir du blanc, du rouge ou du rosé.
Exactement. La plupart des cépages. Alors, à condition que le cépage soit rouge au départ, parce que la couleur vient de la peau.
D'accord.
Donc, si vous voulez faire du vin rouge, il faut avoir un cépage rouge.
Donc, la réciproque n'est pas vraie.
Et vin rosé, et tout. Par contre, pour le blanc, on peut prendre un rouge, on squeeze le pot, on jette la peau et on a un jus blanc.
Oh là là, c'est
tandis
beau, quand
que
même.
Pour faire un vin rouge avec un vin blanc, avec un cépage blanc, il faut se lever de bonne heure.
Un petit peu de grenadine peut-être, David. Ouais, vous connaissez un peu les vins suisses, Hélène, Laure ?
Moi, je connais surtout les vignerons suisses. Je n'en dirai pas plus, débrouillez-vous avec ça.
Je vois. Là.
Ça, c'est un autre chantier qui s'ouvre.
Vous êtes radieuse aujourd'hui, je pense c'est ça. Et vous, Laure, vous avez un petit copain en Suisse aussi, comme
non,
Hélène.
Non, mais en effet, je connais une vigneronne notamment, qui est un peu la papesse à Fuis, c'est Marie-Thérèse Chappas, qui a des vignes très escarpées, avec un funiculaire... qui travaille très bien, j'aime beaucoup ces Syrahs.
Elle fait des vins magnifiques.
Merci David, donc on reparlera la Suisse demain avec vous, c'est ça ?
On continue avec
super,
les cépages.
Merci David, merci également vous Jérôme Gallo, Hélène Piau et Laure Gasparotto. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve donc demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas Lecavis qui a été fondé, comme vous le savez, en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.